Donc, ça se trouve dans Néhémie au chapitre 8, du verset 1 à 8, mais bon, j'en ai rajouté un peu, quelques versets, ils vont être projetés. Je lirai pas la totalité, vous avez quelques noms propres qui sont pas évidents à prononcer, comme Ikija, Ashtab, Nadana, je vous les laisse lire, voilà. Donc, je commence. « Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. » C'est pratique. Hein. « Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, et de tout ce qui était apte à comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la moitié de la journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Alors le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenait donc Matitia, vous lisez les noms, il y en a une paire, et ensuite Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen », en levant les mains. Puis, ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Donc, s'ensuit Josué et toute la série des noms, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple. Celui-ci est resté debout sur place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les lévites donnaient des explications à l'ensemble du peuple. Ce jour est un jour saint pour l'Éternel votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Et ils ont ajouté, allez manger un bon repas et faire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne soyez pas tristes. » Et l'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Et ils avaient en effet compris en parole ce qu'on leur avait exposé. Voilà pour le texte. On va prier avant de poursuivre. Merci Seigneur pour ce texte qui est puissant, qui est palpitant, qui est vivant et qui nous va droit au cœur et qui est réellement inhabituel, Seigneur, dans le texte de peut-être de l'Ancien Testament. Et parce que c'est vrai, nous avons l'habitude de voir d'autres épisodes, d'autres faits. Merci parce qu'il vient éclairer, Seigneur, une réalité qui est la lecture de ta parole capable de transformer des vies, Seigneur, et qui reste un message universel pour nous et qui a traversé tous les âges. Et maintenant, Seigneur, nous voulons vraiment nous mettre à l'écoute de ta parole, Seigneur, et rester centrés sur cette vérité, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà le tableau. Mes amis, je viens de vous lire un récit palpitant. Alors c'est véritablement une réunion d'évangélisation avant l'heure. Hein. J'exagère, mais tout y est. Vous avez le prédicateur, l'auditoire, le message qui est la parole de Dieu. Vous avez l'auditoire qui se repent. Vous avez les personnes qui répondent à l'appel de Dieu. et il y a les conversions et les réjouissances. En prime, un peu plus tard dans les chapitres suivants, par rapport à ce réveil spirituel, il va y avoir des réformes qui vont changer véritablement pour dire que ça n'a pas été simplement un feu de paille. C'est ce que je dirais, c'est ce qu'on pourrait appeler un véritable réveil spirituel. Bon, c'est vrai que pendant ce temps-là, il n'y a pas eu de miracle, ni de manifestation surnaturelle, ni d'autres signes comme des prophéties ou des parler en langue. Ça viendra plus tard. Non, là, la seule chose que l'on ait, c'est la prédication du texte de la loi qui provoque ce séisme. Et encore, le texte nous dit qu'il y a eu une lecture et ensuite qu'il y a eu une explication stricte du texte biblique. La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Alors voilà pour nous une leçon, je dirais, de vie spirituelle et de témoignage. Alors une petite parenthèse, parce que ce genre de situation massive comme ça, hein, de tout un collectif, on la retrouve des fois dans l'histoire de l'Église. Alors, je ne sais pas si un jour ça vous est arrivé, mais je vous y encourage de lire un peu la biographie des grands prédicateurs, par exemple sur le réveil gallois, ou certains prédicateurs comme Spurgeon, John Wesley ou Moody, des gens qui, par exemple, prêchaient la repentance et voyaient des auditoires s'effondrer, se mettre à genoux et accepter Jésus-Christ. C'est des choses qui étaient assez saisissantes fin 19e et début 20e. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens au texte. Mais pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut peut-être un petit peu expliquer le contexte. Alors, quand vous lisez le livre d'Esdras, de Néhémie, Daniel et Esther, vous êtes à peu près dans la même période, hein, ça part de 606 avant Jésus-Christ jusqu'à 445, c'est-à-dire la date où l'action se passe. Et dans ces personnes que j'ai citées, vous pouvez rajouter le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel et aussi le prophète Habacuc. Voilà, ça c'est un peu pour vous situer. Alors, sur toute cette période, il y a eu beaucoup de chamboulements, il y a eu trois vagues de déportation et aussi trois vagues de retour d'exil. Alors, quand vous vivez une déportation et un retour d'exil, vous pouvez penser que ça vous secoue un pays, hein, ça peut désorienter tout un peuple. Et on imagine facilement que le peuple avait perdu ses repères. Alors, pour les retours d'exil, donc il y a eu un premier retour en 536, puis ensuite en 458, le roi de l'époque, le roi de Babylone, va autoriser les Juifs à retourner en Israël. Et en tout, on peut dire qu'il y aura trois vagues. Et la dernière vague, c'est celle avec Néhémie en 445, quand ils reviennent. Et donc, c'est à cette date que se situe l'action. À cette date, il y a Néhémie et Esdras, et ces personnes-là sont envoyées par le roi de Babylone. Et on peut dire que Néhémie est arrivé à une certaine époque, et Esdras, qui était plutôt quelqu'un qui avait une fonction religieuse, est arrivé 13 ans plus tôt. Alors, on se trouve dans un pays qui est dévasté et où il y a des déportés. Et malgré tout cela, pour le retour du peuple, dans le premier retour du peuple, hein, de l'exil, il se fait avec deux personnages qui sont très particuliers. Ces personnages sont exemplaires parce qu'ils réussissent à rapatrier à peu près 150 000 personnes. Et ces deux personnages, je vous en parle parce que c'est important quand même pour bien comprendre le texte, c'est Zorobabel et Josué, pas le Josué de l'Exode. Hein. Et ce sont des personnages qui sont un peu, si vous voulez, c'est là où c'est important, ce sont des figures messianiques et ce sont un peu des préfigurations de Jésus-Christ. Et ces deux personnages vont être repris par le prophète Agée et Zacharie. C'est important parce qu'on se dit que dans la Bible, il y a beaucoup de noms. Et dans cette période très précise, quand Néhémie revient et que Esdras lit le livre, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et que tout ce que Dieu va préparer d'avance va permettre ce réveil spirituel, hein. Alors c'est important parce que Néhémie et Esdras, ils arrivent pas en terrain vierge, hein. C'est pas comme ça, c'est pas une visite de routine, hein. Tout ce qui va se passer de ce que je vous ai lu, ça tient compte d'un long processus qui a duré 70 ans et qui va permettre justement ce réveil spirituel. En plus, tous ces personnages sont des personnages qui ont été choisis par Dieu. Bon, là, il n'y a rien de très nouveau, mais ils ont une très grande force symbolique. La Bible veut nous montrer par cela que l'histoire d'Israël est une référence pour tous les croyants et que son histoire est unique parce qu'elle est conduite par Dieu lui-même et que les personnes que Dieu a choisies, ils ont reçu une onction particulière et un rôle particulier justement pour faire ce que Dieu leur demande. Dans toute cette histoire que je vous ai lue là, il n'y a rien de fortuit, il n'y a rien de hasard. Et cela nous renvoie aussi à notre propre histoire avec Dieu, où nous sommes invités à lire la Bible pour comprendre, je dirais, aussi l'œuvre de Dieu. Ce que je veux vous expliquer, c'est que des fois, dans nos existences, on peut être un peu perdu de ne pas savoir un peu ce qui se passe, et un peu la morale de cette histoire, c'est quand on est un peu submergé, c'est de revenir au texte biblique. Il n'y a pas que cela, mais c'est une des premières choses à faire. Et ça doit nous permettre, si vous voulez, de mieux comprendre le pourquoi de telle ou telle épreuve, de telle situation. Et surtout, je dirais, de bien comprendre aussi et de comprendre les personnes que Dieu met sur notre chemin. Alors, quand je parle de processus pour expliquer le réveil du peuple, bon, je fais référence à trois phases de déportation. Alors, rapidement, il y en a une en 606, où le châtiment d'Israël en Assyrie, c'est au temps d'Ézéchias, là, il y a une première déportation. Après, en 598, c'est Nébuchadnezzar, lui, fait pas les choses à moitié, il emmène 10 000 captifs, et il revient en 596, où il va détruire le temple et les murailles. Voilà, bon ben c'est véritablement une œuvre de destruction. Alors on peut se dire qu'après une telle catastrophe, la nation juive elle est anéantie. Il n'y a plus de temple, plus de roi, plus de murailles, plus aucun trésor, il n'y a plus personne. Même le personnel qui était attaché est déporté, que ça soit des charpentiers, des orfèvres, les sculpteurs, les ouvriers, les maçons. Le roi, il emmène tout son petit monde avec lui. Voilà. Alors, heureusement, dans tout cela, dans tout ce grand malheur, Dieu a quand même choisi un roi qui s'appelle le roi Cyrus, qui lui, il a été choisi par Dieu. Cyrus, il a une place particulière dans l'histoire. C'est aussi une figure messianique. C'est le roi de Babylone. Et Ésaïe en parle et il dit de lui, « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Et donc, ça c'est redit aussi dans Ésaïe 45, verset 13. Donc, va suivre, si vous voulez, trois phases de retour d'exil. Alors, c'est vrai que tout ce que je vous dis, c'est un peu technique, mais si on n'en parle pas, on comprend pas, si vous voulez, tout ce processus qui a amené le peuple d'un seul coup à tomber à genoux suite à la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement depuis des années, quoi. Donc, je récapitule, en 536, donc Zorobabel et Josué, reviennent donc avec, j'ai dit 150 000, mais le texte lui parle de 50 000 personnes, c'est possible qu'il y avait des enfants et des femmes avec, et en 458, sous la conduite d'Esdras, lui, il va ramener 5 000 personnes et il va restaurer le culte en Israël. Et donc après, Néhémie vient un peu plus tôt, en 445, et c'est lui qui va reconstruire les murailles. Alors tout ça, c'est pour vous dire que tout ne s'est pas fait d'un seul coup. Ce qui explique, si vous voulez, en partie, la longue attente du peuple pour avoir une parole. Je pense que le peuple qui était là, il devait dire, mais il se passe rien, bon, il y a des choses qui se reconstruisent, mais Dieu ne nous parle pas directement. Et ils attendaient certainement une parole qui vient directement de Dieu. Et cette parole qui vient, elle viendra avec Esdras quand il va lire le livre de la loi. Alors, dans ce que je vous ai lu, qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc, Néhémie construit ses murailles. D'ailleurs, il va assez vite dans les réparations, même s'il rencontre beaucoup d'obstacles. Vous pouvez lire ça dans les chapitres précédents. Bon, je ne vais pas tout vous récapituler. Mais Néhémie est aussi un personnage très particulier. C'est un homme qui est courageux, un homme de prière. C'est un homme qui était très organisé, qui savait organiser ses chantiers. Et le roi l'avait promu gouverneur pour justement accompagner ce retour des Juifs et pour un peu, si vous voulez, structurer au niveau politique. Et il a envoyé aussi Esdras. Alors Esdras, lui, il est venu un peu plus tôt, c'est un scribe. Alors lui, il avait plutôt la partie religieuse et culturelle. Il devait restaurer le culte. Voilà, donc je vous en parle parce que ces deux personnes sont citées dans ce passage. Alors, voilà ce qui se passe. C'est le jour de la fête d'expiation, c'est-à-dire la fête des tabernacles. Tout le peuple se trouve rassemblé. Donc il y a même les femmes et les enfants, ce qui était quand même exceptionnel. Lorsqu'il y avait des grandes convocations comme ça, avec un homme ou un prophète qui devait parler au peuple, généralement il n'y avait que les hommes dans la Bible. Du moins c'était comme ça dans la tradition juive. Mais là, tout le peuple est rassemblé. Donc les murailles sont terminées, le temple est reconstruit, et ce qui est important aussi, c'est que la ville de Jérusalem est repeuplée. C'est, là aussi, c'était aussi la fonction de ces hommes. C'est-à-dire que vous avez un pays que vous videz complètement, ensuite il revient dans son pays d'origine, mais la tâche d'Esdras et de Néhémie et d'autres personnes, c'était de repeupler le peuple de Juda et surtout la ville de Jérusalem. Alors tout va bien, mais on est quand même dans une situation d'équilibre très fragile, parce que sur place, les Juifs qui reviennent, ben, ils ne sont pas forcément très bien accueillis. Et à ce moment-là, donc, le peuple demande de manière unanime et spontanée la lecture du livre de la loi. Alors pour une fois, c'est le peuple qui demande à ce qu'on lui lise le texte biblique. Parce que d'habitude, c'est avant et d'ailleurs dans la Bible, c'est souvent le prophète ou l'apôtre ou l'homme envoyé de Dieu qui prend l'initiative. Hein, ben c'était le cas pour Moïse et Josué. C'est Moïse et c'est l'homme de Dieu qui appelait le peuple et qui lisait ce que Dieu lui transmettait. Là, c'est le peuple qui prend l'initiative. Et ce peuple réclame la lecture du livre de la loi, qui va engendrer donc ce réveil spirituel. C'est assez curieux, hein. Et pour être entendu, donc, c'est Esdras qui est désigné pour cela, c'est Esdras. Et pour cela, donc, il se met sur une estrade. Et il faut dire que Esdras, on n'en entend pas parler pendant 13 ans, il fait son ministère dans le pays et il revient juste à ce moment-là à Jérusalem, justement, pour lire ce texte de la loi qui va entraîner ce réveil spirituel. Donc il revient à Jérusalem pour célébrer la fête et il va lire ce fameux livre de la loi, c'est le livre de Moïse. Il se place sur une estrade et quand il monte sur l'estrade, il est associé de 12 sacrificateurs qui représentent un petit peu les 12 tribus. Il fallait quand même, je dirais entre guillemets, une mise en scène symbolique très forte pour que le message puisse passer. Mais ce qui est curieux, c'est que si Esdras lit le texte, c'est pas une lecture solitaire. Quand il lit, on s'aperçoit qu'il lit le texte, mais en même temps, dans le peuple, vous avez les Lévites qui se promènent et qui vont lire le texte et qui vont aussi l'expliquer. Et quand tout ça se passe, donc le peuple est touché et ils acquiescent à ce que le texte dit puisqu'ils disent « Amen, Amen ». Ça veut dire que le peuple accepte les paroles du texte et surtout ils acceptent les ordres qu'il donnait. Non seulement le peuple répète « Amen », mais en plus il lève les mains et il s'agenouille. Donc on assiste vraiment à un acte de repentance et à un acte où le peuple reconnaît son péché. Alors que se passe-t-il en réalité ? Il s'agit tout simplement d'un réveil spirituel et je dirais tous les critères y sont. Premièrement, vous avez Esdras qui lit le texte et il a reçu une onction de la part de Dieu. On le lit dans le chapitre précédent, dans Esdras, chapitre 16, versets 6 à 8. Deuxièmement, vous avez le peuple. Il ne s'agit pas simplement que des hommes, mais c'est tout le peuple, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants. Le troisième critère, c'est que vous avez le peuple qui était dans un climat d'unité. Et on retrouve ça hein, aussi dans l'Ancien Testament un petit peu avant, dans Exode 24:3, quand Moïse donne la parole de Dieu, il est dit « Le peuple tout entier répondit d'une seule voix, et nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Un autre signe, c'est que le jour qui a été choisi pour ce réveil, c'est le jour de la fête des trompettes et de la fête d'expiation. Alors, qu'est-ce que signifie cette fête? Elle marque, si vous voulez, le début de 10 jours de consécration et surtout de repentance devant Dieu. Et enfin, ce qui a provoqué quand même ce séisme, je dirais, psychologique et spirituel, parce que c'est pas rien, hein, vous imaginez un peuple comme ça qui dit amen, qui lève les bras et puis qui se met à genoux, ça jette, hein, quand même, hein, faut dire ce qui est. On se dit, mais bon, il y a plein de circonstances, mais le texte en lui-même. Alors, c'est là que tout se joue. Dans le texte de la loi, il s'agit certainement, hein, on dit le livre de la loi de Moïse, je pense qu'il s'agit du livre du Deutéronome, voire du Lévitique. Alors, que dit le texte pour provoquer un tel choc? Pour que tout un peuple acquiesce au commandement de Dieu. Alors certainement, le Deutéronome, il est dit que c'est le livre le plus important, c'est parce que c'est lui qui donne certainement le plus d'indications, je dirais, spirituelles et théologiques. Et c'est le livre, si vous voulez, qui rappelle l'histoire de l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Mais c'est une alliance qui est toujours dans la perspective d'aller vers la terre promise. Hein. C'est pas une alliance comme ça, ça rentre dans cette dynamique. Dieu donc convoque son peuple par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron dans ce fameux livre, et au chapitre 1, au chapitre 5 et 6, il y a un commandement central dans ce livre qui est lu, c'est « Tu aimeras un seul Dieu ». Et à chaque fois que ces paroles reviennent, hein, ça revient très souvent dans le livre du Deutéronome, il est dit que le peuple a acquiescé. À chaque fois que le livre de la loi a été lu, le peuple s'est adressé à Moïse et a accepté les conditions, c'est-à-dire obéir à Dieu et surtout l'aimer de tout son cœur. Donc je vous lis, hein, dans Exode, au chapitre 24, verset 7, il dit « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. » Et le peuple lui dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » C'est mot pour mot ce qui est écrit dans Néhémie 8, le passage que je viens de vous lire. Donc, vous imaginez le tableau, hein, et tous les parallèles qu'il y a entre le peuple de l'Exode qui va vers la terre promise et sous Néhémie, le peuple qui justement retrouve la terre promise. Seulement, il n'y a plus de lien entre Dieu et son peuple quand il rentre d'exil, ou du moins, le peuple qui revient dans son pays au temps de Néhémie, il ne retrouve pas un pays où Dieu a été mis au cœur, où Dieu est au centre de la vie sociale et religieuse. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, mais heureusement que Dieu a envoyé Esdras qui va relancer la vie religieuse, c'est lui qui va restaurer le culte. C'est lui qui va aussi interdire les mariages mixtes, c'est lui qui va chasser l'idolâtrie, et surtout c'est lui qui va remettre un peu toutes les célébrations, les dédicaces et toutes les fêtes, comme la dédicace du temple. Et donc le texte de la loi qui est lu remet tout cela en évidence. Donc, d'un seul coup, le peuple se rappelle ce que Dieu a fait tout au long de leur histoire. Ça leur fait comme un flash, quoi. Hein. Alors, bien sûr, il y a les promesses, mais surtout, ce qu'il y a, c'est les commandements et aussi les châtiments. Et c'est quand le peuple réécoute les paroles du Deutéronome ou du Lévitique que le peuple va reconnecter avec Dieu. C'est à ce moment-là, je dirais, que l'Esprit de Dieu saisit le cœur de chacun, qui le rend conscient de leur péché, et c'est à ce moment-là qu'ils se repentent. Alors c'est vrai qu'on retrouve des similitudes entre la réaction du peuple au moment où il reçoit la loi sous Moïse et celle du peuple à la lecture du livre de la loi que lit Esdras. Et on voit que dans les deux cas, hein, on peut faire des similitudes, ils disent « Amen, Amen ». Vous relisez le chapitre et vous verrez que ce mot « Amen », c'est pas un « Amen » de circonstance dit du bout des lèvres, hein, c'est quelque chose qui est dit avec qui est lourd de conséquences et de gravité. Et on comprend pourquoi quand le peuple entend ces paroles, il est sous le choc et il s'agenouille. Il prend conscience de ce péché et surtout il prend conscience de son éloignement et de sa tiédeur. Mais une fois qu'il y a eu repentance, hein, le texte nous dit, il y a la fête et les réjouissances. Alors, ces fêtes et ces réjouissances, c'est pas fait sur l'initiative qui est passée par la tête de Néhémie ou d'Esdras, hein, mais c'est bien quelque chose qui est demandé par Dieu par rapport à un réveil spirituel, à une séance, je dirais, à un moment de repentance, il vient les moments de réjouissance. On retrouve ça donc dans Deutéronome au chapitre 26 et dans Deutéronome au chapitre 16, où il est dit « Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. » Et ce mot d'ordre « Tu te réjouiras », ben ça revient sans cesse dans ce chapitre du Deutéronome. Par contre, il y a d'autres choses qui vont jouer. Ce sont ces Lévites, hein, on voit ces Lévites qui passent dans les rangs, qui lisent le texte et qui donnent des explications à toutes les personnes qui n'ont pas tout à fait compris. Donc vous imaginez des milliers de personnes qui sont là et qui écoutent un texte qu'ils ont complètement oublié. Donc il faut aussi imaginer un peu la scène avec les femmes, les enfants, tout ça, ça devait faire quand même, ça faisait du mouvement. Ça devait être un moment quand même très particulier, un moment exceptionnel. Alors je dirais, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte? Ben, déjà, je dirais, les critères du réveil spirituel qui est lié, si vous voulez, à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, premier point, cette parole engendrait une conversion, un choc dans un collectif, mais pas uniquement sur un collectif, mais aussi sur chaque personne. Ça s'est fait un jour décidé par Dieu. C'est un jour, il est dit dans le texte, consacré. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est les changements que va provoquer ce réveil, des changements de comportement. Quand on lit après Néhémie 8, que vous lisez les chapitres qui suivent, on voit qu'il va y avoir un jeûne collectif, une alliance qui va être renouvelée et une réforme religieuse qui va suivre. Et ça va changer complètement toute la société. Ça va changer tout le quotidien des personnes qui vont se mettre en place. Donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc ça veut dire que la parole de Dieu agit avec puissance. Alors, ce texte-là, cette lecture d'Esdras qui lit la Bible et qui engendre un réveil spirituel, il y a un autre moment où ça se passe dans l'Ancien Testament. Il y a un moment donné, 180 ans plus tôt, un roi, c'est le roi Josias, hein, qui découvre le livre de la loi, qui le lit et qui, lui aussi, se repent et se repent, change de comportement et entraîne aussi tout un ensemble de réformes. Donc ce qui montre quand même que la lecture du texte biblique provoque un choc salutaire. Donc vous pouvez retrouver cet épisode, c'est intéressant de le lire parce que il y a vraiment un parallèle entre ce que j'ai lu et ce que va vivre le roi Josias. C'est dans le deuxième livre des rois au chapitre 22. Alors, en conclusion, ces exemples nous montrent très concrètement que le texte biblique en lui-même porte une puissance particulière. Surtout si on le lit, bien sûr, avec un esprit d'ouverture. Ce qui m'intéresse ici, c'est tout ce qui précède cette lecture du livre de Moïse. Et aussi, je dirais, la réaction du peuple. Il ne s'agit pas d'un miracle ponctuel, mais d'une longue histoire qui vient souligner l'alliance de Dieu avec son peuple. Il ne faut pas croire que quand on lit comme ça, il ne faudrait pas croire que le peuple s'est rassemblé sur un coup de tête et que la simple lecture du livre de Moïse a provoqué ce réveil. On a vu qu'avant cela, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a eu un long processus de maturation, hein. C'est l'histoire chaotique d'un peuple qui a accepté Dieu dans sa vie et qui en a accepté les termes de l'Alliance. Alors, ça nous encourage parce qu'on se dit que ce peuple, il n'a pas toujours été fidèle. Et pour nous, je dirais que même si nous, on est infidèles, lui, Dieu, ne dément pas sa fidélité. Et ce qui est important aussi, c'est que des fois, on se dit que pour nos vies personnelles, pour retrouver le chemin de la communion avec Dieu, des fois, on nous dit qu'il nous arrive un pépin ou une épreuve ou un événement. Là, ce qui est important, c'est que la première chose la plus importante, c'est de revenir toujours au texte biblique. de relire sa parole avec le profond désir de le suivre. Et en conclusion, c'est dire que la Bible est notre seule et première ressource. Elle m'engage, mais elle engage aussi l'Église. On l'a vu avec les Lévites qui expliquaient la parole de Dieu aux autres. Alors la leçon de ce texte est que si nous recherchons la volonté de Dieu, il se manifeste, il reste fidèle à ses promesses. Alors ça peut vous paraître vague et abstrait, mais ça ne l'est pas. Il faut vraiment être attaché à vivre une vie engagée et Dieu va répondre à votre quête spirituelle. Alors il va répondre à chacun selon son désir et aussi surtout selon sa capacité de service. Alors ici dans le texte, on ne parle pas d'une personne mais d'un peuple. Mais au moment où Esdras lit le livre, tout le passé d'Israël va remonter. Et donc, je vous ai dit, il s'agit d'une longue histoire. Et comme très souvent, ce type de réveil spirituel vient après une longue période de difficultés, d'épreuves et d'éloignement. Et pour nous aujourd'hui, quand on mesure notre attachement à Dieu, qu'il soit tiède ou bouillant, nous devons être touchés par la parole de Dieu. Mais pas uniquement. Nous pouvons être aussi soumis parfois dans nos vies à une longue période de maladie, à une période de déprime, être touchés par un texte biblique qui est lu et prêché lors d'un culte. Ça nous arrive. Et à ce moment-là, rien n'empêche que nous puissions être renouvelés spirituellement. Alors ce matin, je ne vous ai pas livré de grands secrets sur la vie spirituelle, j'ai voulu simplement vous mentionner un fait. Je vous ai fait part un petit peu de ma redécouverte d'un épisode biblique que j'avais un peu oublié. Et j'espère que dans vos lectures, vous puissiez vivre le même type d'expérience et que vous puissiez vous rapprocher ou avancer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.